carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
À l'occasion du 50e anniversaire de la mort du compositeur Heitor Villa-Lobos, l'ambassade du Brésil, en collaboration avec l'Observatoire musical français, organisait un colloque international le 14 et 15 décembre 2009 à l'Université de Paris-Sorbonne. Heitor Villa-Lobos disait de sa musique qu'elle était naturelle comme une chute d'eau. Le compositeur, né au Brésil en 1887, jouit d'une œuvre féconde et diversifiée. Opéra, concerto, poèmes symphoniques, musique de film, il s'est autant imprégné de musique populaire que de musique savante. Daniel Piston, responsable de l'Observatoire musical français et correspondante à l'Académie des Beaux-Arts, évoque ce compositeur brésilien dont le talent s'est très rapidement étendu aux États-Unis comme en Europe. Dans les extraits que nous vous avons sélectionnés, Daniel Piston répond aux questions d'Anaïs Fléché sur le rapport entre académisme et liberté dans l'œuvre de l'artiste. En seconde partie, vous retrouverez Manoel Correa do Lago, auteur d'une thèse sur le modernisme musical à Rio de Janeiro. Il reviendra sur le Guia Pratico, un recueil de partitions de piano rédigé par Villa-Lobos entre 1932 et 1936. Manoel Correa do Lago vous fait découvrir la place toute particulière qu'occupe cet ensemble de compositions dans l'œuvre de Villa-Lobos. Tout de suite, retrouvez Daniel Piston.
Eh bien, ce n'est pas sans émotion que nous ouvrons ce troisième colloque consacré aux musiques du Brésil à l'OMF. Et je dois bien sûr rendre hommage à ma collègue Zélia Schweck qui a organisé, édité les deux premiers, Brésil musical et le piano brésilien. Aujourd'hui, autour de Villa-Lobos, je me posais la question de la liberté et de l'académisme. Nous savons tous que Villa-Lobos est de loin le plus célèbre compositeur brésilien dans le domaine de la musique savante et peut-être même pas seulement. Tous les indices l'attestent, de l'édition graphique ou phonographique, au grand nombre de travaux académiques qui lui sont consacrés, aux ouvrages, aux colloques ou tout simplement au nombre de mentions sur la toile. Nous le savons et nous nous en félicitons, car il s'agit effectivement d'une personnalité et d'un créateur d'exception qui a servi de modèle à bien des musiciens subséquents. Pourquoi ? Eh bien, sans doute tout d'abord par son goût, heureusement immodéré, irréductible, pour la liberté. Une liberté perceptible à travers tant d'indices biographiques ou artistiques. C'est d'abord un autodidacte à qui son père a appris à jouer de quelques instruments avant de disparaître à la fin du XIXe siècle. C'est ensuite un musicien qui se dirige vers d'autres états, ceux du Nord surtout, dont il apprécie la musique, et qui préfère finalement les musiques des rues, les musiques populaires, à l'enseignement de l'Institut national de musique, d'où il sort sans diplôme. Il jouera d'ailleurs librement toujours de plusieurs instruments et puis montrera à la postérité lorsqu'il aura des responsabilités pédagogiques que l'essentiel est peut-être la voix humaine. Nous y reviendrons. Dans plus d'un millier de compositions personnelles, il expérimentera bien des genres, bien des effectifs aussi. Qu'il suffise de penser à ce quatuor de jeunesse pour flûte, saxophone alto, célesta, harpe et voix féminine. Ou bien encore à ce nonetto pour vent aussi, mais célesta, harpe, piano, écrit sur la partition sur quatre portées, batterie complète et à nouveau la voix, qu'il sous-titre, je cite, « Impression rapide de tout le Brésil » et non plus seulement « Impression sur Rio » comme son quartetto précédent. Et ces deux œuvres, Quatuor et Nonet, ont été entendues lors du premier concert de Villa-Lobos à Paris. C'était le 10 mai 1924, à la Salle des Agriculteurs, en une période, il faut le rappeler, qui n'a pas peur des scandales, pas plus à Rio qu'à Paris. En effet, souvenons-nous que dès 1915, il y a des musiciens qui ne veulent plus jouer sa musique. Le chahut s'installe quelquefois dans les salles de concert. À Paris, souvenez-vous, 1923, le ballet mécanique de Georges Anteil, au ballet suédois, au Théâtre des Champs-Élysées, un scandale que Marcel Lherbier a immortalisé dans L'Inhumaine, malheureusement un film muet. Puis Millau, La création du monde, en octobre 23. Du même Millau, La brebis écarée, qui suscite un beau chahut à l'Opéra Comique en décembre 1923 et ne peut se maintenir que pour 5 représentations. 1924, on pense bien sûr à Éric Satie, Mercure, les soirées du comte de Beaumont au Théâtre de la Cigale. Et puis surtout, Satie relâche, provocation complète, projecteur braqué sur le public, auquel fort heureusement on avait conseillé d'apporter des lunettes de soleil. Bref, l'époque est mouvementée et c'est dans ce contexte donc mouvementé que Villa-Lobos conçoit ce nonet dont nous allons peut-être écouter ou réécouter le début sur la base d'un CD qui a été conçu avec le programme de ce premier concert parisien de Villa-Lobos. Alors c'est une œuvre assez longue, une quinzaine de minutes. Nous ne pourrons en écouter que le début, mais je pense qu'il en dit long déjà, à la fois sur la veine de Villa-Lobos, sur son effectif et sur le type d'impression qu'il veut produire quand il vient à Paris, car n'oublions pas qu'il ne vient pas pour apprendre, il vient pour montrer ce qu'il sait faire. Écoutons donc le début de ce nonet. Grande est donc la liberté de cet effectif instrumental et grande est aussi la liberté formelle des œuvres de Villa-Lobos où les mélodies, notamment dans les mouvements lents où, pour mon goût, il excelle, et les rythmes brésiliens souvent saillants, semblent entraîner sans cesse le discours bien loin des chemins prévisibles. Mais si la pesanteur est la liberté de la pierre, comme le voulait Saint-Exupéry, quels sont pour Villa-Lobos les garants de cette liberté? Ce sont peut-être tout d'abord les sources et modèles de son pays. Du choro à diverses percussions, des cirandas au cavaquinho, la caixa, pourquoi pas le berimbau, tout est permis à qui vient de loin. Et ces genres et instruments nouveaux dans la musique savante européenne contribueront certes à la rénovation de l'écriture. Villa-Lobos se trouvait naturellement encouragé dans ses usages par la fameuse semaine d'art moderne de Sao Paulo en 1922. Et l'on connaît aussi la formule du philosophe volontiers iconoclaste Oswald de Andrade, « Toupie ou pas toupie, là est la question ». Traduisez, recourir à l'art indigène ou ne pas recourir à l'art indigène. Ce fut, on le sait, le début de la reconquête des artistes brésiliens dont l'art national était véritablement colonisé par les Européens. Mais comme le montre la phrase même d'Oswald de Andrade, la démarche pouvait susciter des réticences. Et du reste, l'art du jeune Villa-Lobos ne fut pas toujours compris à cette époque. Rappelons que si certains musiciens en 1915 refusent de le jouer, en 1930, on peut siffler encore ces choros. Est-ce pour cette raison qu'il songea à lire les ouvrages de Vincent d'Indy ? Il est sûr que le contrepoint, si bien défendu par la Schola Cantorum en France, tient une place dans son œuvre. L'intitulé même des Bachianas Brasileiras le montrerait. Les relations avec les compositeurs français ont d'ailleurs été nombreuses depuis les visites de Millau et d'Arthur Rubinstein au Brésil. Preuve en soi, la découverte récente, en 1909, des mélodies de Guy Ropartz que Villa-Lobos a orchestrées en 1921. Le souci de l'architecture est d'ailleurs réel, et l'analyse schenkerienne du Roux de Poema, ce poème sauvage, où le compositeur souhaite faire apparaître son ami Arthur Rubinstein, mais où il se dévoile si bien en même temps lui-même, cette analyse pourrait être révélatrice. Mais tout comme il avait refusé la formation académique, Villa-Lobos certes suit certains modèles entendus à Paris, mais je pense qu'aucune influence, aucun modèle ne viendra à bout de son inextinguible soif de liberté. Que dire alors de cette période où, après la Seconde Guerre mondiale, il est couvert d'honneur ? Lui qui aurait dit auparavant, je cite, « un pied dans l'académie et vous êtes déformé ». Il ne les refusera généralement pas, mais les acceptera plutôt avec reconnaissance. Rappelons qu'en 1944, il est docteur du Collège occidental de Los Angeles. En 1945, premier président de l'Académie brésilienne, qu'il avait largement contribué à fonder. En 1948, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Paris frappe une médaille à son effigie à l'Hôtel de la Monnaie 4 ans plus tard. 1954, docteur en musique de l'Université de Miami. 1957 est une année Villa-Lobos au Brésil. 1958, docteur de l'Université de New York, chevalier de la Légion d'honneur et grand prix de l'Académie Charles Cros à Paris. Arrêtons-nous un instant sur l'exemple de l'Institut de France. Le 5 mai 1948, l'Académie des Beaux-Arts l'élit donc correspondant à la place laissée vacante par Manuel de Falla, lui-même correspondant de cette académie de 1935 à 1946. Qui a pu proposer son nom ? Probablement Florent Schmitt, qui prit toujours sa défense, qui admirait celui qu'il considérait comme un sauvage aux dents de crocodile et aux yeux de radium. Schmitt, qui ira d'ailleurs au Brésil en 1949 rendre visite à Villa-Lobos, et celui-ci composa en son honneur un hymne qu'il fit jouer lors de son arrivée. Une recherche aux archives de l'Institut dans les cartons de correspondance et les procès-verbaux des séances de l'Académie des Beaux-Arts montre que le 17 juillet 1948, après avoir appris son élection, Villa-Lobos remercie, je cite, « les grands membres de l'Institut de ce titre si cher pour moi » et promet de leur rendre visite. Il communique effectivement avec les académiciens et assiste même à leurs séances. En 1951, par exemple, l'Académie reçoit et commente l'ouvrage de Paula Baruch, aux romances de Villa-Lobos. En 1952, il invite cette assemblée à venir écouter ses œuvres, interprétées par la Société des concerts du Conservatoire le 23 avril sous sa direction, Salgavo. Le 24 mai 1954, sa présence est également saluée lors d'une séance à laquelle assistent entre autres Bucer, Adolphe Beauchot, alors secrétaire perpétuel, Jacques Roucher, Marcel Samuel Rousseau et Florent Schmitt. On sait qu'il enregistrera en ces années pour EMI plusieurs disques de ses œuvres avec l'orchestre de la radiodiffusion française. C'est la série désormais fameuse intitulée Villa-Lobos par lui-même. Mais le plus instructif et le plus significatif, pour l'époque comme pour la postérité, demeure sans doute une autre part de son activité brésilienne. On sait que la révolution de 1930 porte au pouvoir dans ce pays Getúlio Vargas et son programme de réforme. que la Constitution de 1934 impose l'enseignement élémentaire dans un pays où la moitié des enfants n'étaient pas scolarisés. Et c'est dans ce contexte que, après avoir souligné, je cite, que l'art pouvait être un puissant facteur révolutionnaire, Villa-Lobos, sollicité pour participer à l'institutionnalisation de ces changements, insiste sur le fait que la musique éduque le bon goût. Vous savez qu'il a eu l'audace de dire que le football mettait l'intelligence dans les pieds, et que, s'inspirant alors de la réussite de Wilhelm et de l'Orphéon français, il réussit à faire chanter les enfants, les professeurs, il réussit à réunir 40 000 jeunes musiciens, harmonisant pour eux des mélodies, suscitant des concerts éducatifs, dirigeant le SEMA, le Secrétariat pour l'éducation musicale et artistique, créant même un conservatoire national de chant orphéonique, et puis cette académie brésilienne dont il fut donc le premier président. Dans toutes ses activités, il reste toujours lui-même et continue à défendre la musique de son pays, où, en 1937, une loi contraint les salles de concert et de spectacle à inclure dans leur programmation des œuvres brésiliennes. Lorsqu'il retrouve davantage, à la fin des années 40, son activité de compositeur et chef d'orchestre itinérant, lorsque dans la décennie suivante, il continue toujours à composer, son art a-t-il changé ? Il sera intéressant d'écouter à ce propos un extrait de la suite pour orchestre de chambre qu'il écrivit à Paris en 1959 et que le professeur Sampaio m'a permis récemment de découvrir. C'est un allegro qui occupe la place centrale de la suite, Uma fuga para brincar, une fugue divertissement, une fugue pour divertir, pour amuser. C'est en fait un allegro qui commence par les imitations indispensables dans ce genre musical, mais dont la partie centrale est tout à fait curieuse, où un solo de clarinette échappe tout à fait nettement à l'académisme du genre. Et c'est sans doute là le message qu'il nous laisse. Il a amplement rencontré dans sa vie l'école, l'académie et toutes les formes d'académisme sans doute nécessaires à divers types d'institutionnalisation et de théorisation. Mais il a toujours su les plier à l'imprévisible liberté de son art. Cet art qui lui permettait de chanter dans son arbre, dans sa forêt, dans son pays, dans un univers qui demeurait le sien. Et c'est sans doute là la marque des véritables artistes.
venez d'écouter « Suite pour orchestre de chambre » écrit à Paris en 1959 par Villa-Lobos. Toujours dans le cadre de ce colloque international en hommage au cinquantenaire de la mort de Villa-Lobos, vous retrouverez ici Manuel Correa d'Olago. Il évoquera les sources d'inspiration du Guia Pratico, un recueil de compositions écrit par Villa-Lobos.
Le lien entre la musique savante et la musique populaire est une constante de la musique brésilienne, surtout pendant le XXe siècle. Mais peut-être elle remonte un peu plus loin, puisque quand le prêtre José Maurício Nunes Garcia, donc un compositeur né à Rio à la fin du XVIIIe siècle et qui a composé des œuvres assez importantes, c'est un contemporain de Beethoven, en même temps qu'il écrivait ses œuvres, messes, requiems, etc., il harmonisait également ou écrivait des modinhas. Donc la modinha était une espèce de romance portugaise, brésilienne, qui était très en vogue soit à Lisbonne, soit à Rio, et où se manifestent pour la première fois les rythmes africains très syncopés, qui vont intéresser aussi bien le père José Maurício dans le lyrisme très particulier des modinhas, que le compositeur autrichien Sigismund Neukomm, ami de Haydn, qui aussi séjourne au Brésil au début du 19e, et qui lui-même harmonise 30 modinhas du compositeur Manuel Joaquim da Câmara. Et je crois que cette situation Neukomm-Câmara est très emblématique justement de ce dialogue constant entre le savant et le populaire au Brésil.
Vous voulez dire que dès la fin de la période coloniale, on voit émerger une spécificité de la musique brésilienne?
Tout à fait, et cette spécificité est remarquée très tôt par les voyageurs qui viennent au Brésil. Quand Ferdinand Denis, par exemple, fait un précis sur la littérature portugaise, il a un chapitre sur le Brésil où il parle un peu des débuts peut-être d'une littérature brésilienne, mais il affirme que s'il y a un domaine où le Brésil semble avoir déjà, disons, montré un profil propre, c'était dans cette musique. Et il parle très spécifiquement des modinhas et des lundus.
Et ça, c'est un phénomène qui se développe tout au long du 19e siècle, jusqu'à atteindre une certaine maturité, on pourrait dire ça comme ça, au début du 20e?
Oui, tout à fait, puisque au long du 19e siècle, il y a, avec l'indépendance du Brésil, donc la question de l'indépendance nationale, de l'identité nationale, se pose de manière très forte. Au départ, plutôt de manière thématique, quand Carlos Gomes, le compositeur d'opéra qui a ce grand succès à la Scala de Milan en 1870 avec son opéra Le Guarani et qui deviendrait peut-être le compositeur d'opéra le plus joué en Italie après Verdi entre 1870 et 1890, eh bien il choisit toujours des thématiques brésiliennes. Il essaye parfois d'utiliser donc des rythmes ayant rapport avec, on remarque ça par exemple dans sa dernière œuvre Colombo, où il utilise par exemple une habanera. Lui-même a écrit des pièces pour piano qui ont rapport avec une certaine réminiscence de rythmique africaine, mais c'est surtout à la fin du 19e siècle et d'une manière absolument prédominante au 20e siècle où les compositeurs brésiliens de musique savante commencent à regarder avec grand intérêt la musique qui se fait dans le pays. Et cela représente une ouverture donc à ces rythmes, à ces musiques populaires.
Donc ils se servent de ces musiques à la fois traditionnelles et populaires urbaines pour nourrir leurs compositions, c'est bien cela?
Tout à fait. Donc ce mouvement commence avec une espèce de romantisme tardif. Les compositeurs Alexandre Lévy et Roberto Nepomuceno, dans les années 90 du 19e siècle, écrivent chacun. L'un écrit dans une suite pour orchestre un samba. Nepomuceno écrit un batuque. Et progressivement, un mouvement se dessine d'abord de donner plus de place à l'importance de compositeurs populaires comme Ernesto Nazaré, le poète Catulo da Paixão Cearense. Et d'autre part, peu à peu, surtout avec le début de la semaine d'art moderne, l'idée de faire une espèce de portrait musical des plusieurs musiques du Brésil, disons du sud au nord-est et au nord. Et c'est un peu dans cette perspective que se situent les travaux ethnologiques de Mário de Andrade et la musique de Villa-Lobos.
Alors revenons un petit peu sur cette période des années 1920 et 1930. Donc vous avez évoqué la semaine d'art moderne qui a eu lieu, je le rappelle, en 1922 au Théâtre municipal de São Paulo. Et cette période des années 20 et 30 est considérée au Brésil comme un âge d'or du nationalisme musical, des termes qui sont bien connus en Europe. À la même époque, on a l'école espagnole, l'école russe qui domine les scènes européennes, une école hongroise peut-être aussi. Mais que signifient ces termes exactement au Brésil, un pays dont la construction de la nation est quand même très récente, puisque vous nous l'avez rappelé, l'indépendance ne remonte qu'au début du 19e siècle?
Tout à fait. Il faut, par exemple, quand on pense ou on utilise le mot nationalisme au Brésil, je crois que ça s'applique à l'Amérique latine d'une certaine manière, c'est que la connotation politique que le nationalisme a eue en Europe, particulièrement dans les années 20, 30 et 40, a un rapport très, très lointain, puisque, en fait, c'est un mouvement intellectuel où, tout en étant très intéressé aux apports, au vent nouveau apporté par le modernisme européen, il y a une notion très claire que l'artiste brésilien sera d'autant, pour utiliser les mots de Mario Andrade, sera d'autant plus universel qu'il sera national. Alors, le national est placé donc dans le sens de, d'abord, mieux se connaître, donc faire une prospection non seulement de la musique, mais disons de tout l'art savant et populaire du pays, et en avoir une notion la plus claire et la plus vivante possible. Et cela, vraiment, sans aucune connotation politique, sinon celle d'être soi-même et de, comme disait l'éducateur Anísio Teixeira dans les années 30, lorsqu'il a fait sa réforme d'éducation à Rio de Janeiro, il disait que enfin, les Brésiliens s'étaient habitués à utiliser des vêtements qui n'étaient pas les leurs et qu'il fallait donc se tailler enfin, des éléments, des instruments qui correspondraient à leur propre identité. Alors, cette œuvre, soit les Baquianas en général, donc, c'est le néoclassicisme de Villa-Lobos où il fait une fusion entre les formes traditionnelles du baroque européen et certaines formes populaires brésiliennes avec lesquelles il retrouvait des affinités. Par exemple, il voyait des affinités entre la fugue et le genre populaire du desafio. Alors le desafio, c'est un chanteur populaire qui défie, donc desafio, défie l'autre chanteur à pouvoir continuer dans les mêmes rimes et dans les mêmes sujets, disons l'attaque qu'il lui fait et à laquelle il doit faire une repartie. Donc c'est un sujet et contre-sujet de fugue.
Oui, c'est ce qu'on appellerait une joute poétique.
Une joute poétique, tout à fait, oui. Et en même temps, Villa-Lobos croyait dans cette fugue, enfin, il a écrit des petits commentaires sur cette œuvre, où, disons, la rythmique très irrégulière, pour lui, évoque un certain mouvement de danse qu'il voyait chez les Indiens brésiliens. Donc des mouvements très répétitifs, un peu lourds, et avec une irrégularité particulièrement intéressante.
D'ailleurs, on pourrait revenir un petit peu sur cette fascination pour les musiques indigènes qu'a manifesté Villa-Lobos tout au long de sa carrière musicale, en fait.
C'est vrai. Villa-Lobos appartient à une génération où certains grands personnages, par exemple le maréchal Rondon et l'anthropologue Roquette Pinto, ont fait de très importantes découvertes à l'intérieur du Brésil et ont établi des contacts très importants avec des populations qui étaient tout à fait distantes, isolées, et qui donnent naissance au service de protection de l'Indien. Il y avait, Rondon avait la fameuse motto « mourir peut-être, tuer jamais ». Enfin, alors, ces missions, aussi bien de Rondon que de Roquette Pinto, établissent une espèce d'inventaire, disons, enfin, de cette civilisation matérielle, et une série de musiques sont gravées, donc il y a des phonogrammes que Villa-Lobos étudiera de manière exhaustive et qui seront très fréquemment à la base de très nombreuses œuvres à lui, notamment le Choros 10.
Oui, parce que c'est quelque chose que vous avez montré très bien dans vos travaux, c'est la manière dont Villa-Lobos réutilise les mêmes thèmes dans plusieurs de ses œuvres, avec à chaque fois un travail différent à partir de ces thèmes, bien sûr.
Tout à fait, c'est comme si c'était des leitmotifs qui l'accompagnaient au long de toute sa vie, de toute son œuvre, et ces thèmes tout d'un coup reviennent transformés et ils tissent des textures parfois très très différentes.
Alors, est-ce qu'on retrouve certains de ces thèmes dans ce Guia Pratico auquel vous avez consacré vos derniers travaux? Ou est-ce que là, on a affaire à une entreprise tout à fait différente?
On retrouve certainement une grande quantité de thèmes du folklore enfantin brésilien, qui est un folklore d'origine portugaise et de manière assez surprenante, très française aussi. Par exemple, des musiques comme « Sur le pont d'Avignon » sont passées dans le folklore portugais, des Açores, très très tôt. Par exemple, le mot « Sur le pont d'Avignon », Mário de Andrade se réfère à une corruptelle qui est le « Surupango da Vingança », mais donc les syllabes se répètent.
Est-ce que vous pourriez traduire en français
Vingança serait vengeance, mais Surupango est un nom vraiment tout à fait phonétique, une vraie adaptation de « Sur le pont ». Et dans la main droite, un rosier, enfin une série de musiques françaises, par un biais ou un autre, soit les écoles françaises qui existent depuis le 19e siècle au Brésil ou au Portugal, soit les transformations que ces pièces ont eues, ces mélodies ont eues dans le folklore portugais lui-même, à point que Florent Schmitt, lorsqu'il fait une critique de la Prole et du Bébé numéro 2, qui est une formidable collection pour piano de Villa-Lobos, qui utilise parfois ces thèmes populaires, il dit « Oui, les thèmes populaires brésiliens, c'est un folklore riche comme aucun autre, mais avec des thèmes bien de chez nous. » Alors,
effectivement, ce sont des formes d'appropriation auxquelles on ne pense pas.
On ne pense pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Guia Pratico? Dans le Guia Pratico, Villa-Lobos, justement, avec Anísio Teixeira dans les années 30, participait à un grand mouvement de renouveau de l'éducation primaire et secondaire au Brésil, en visant en même temps une éducation beaucoup plus participative et une éducation où l'élève serait plus lié à son inconscient collectif, disons, en tant qu'expérience brésilienne vécue. Et il croit, il est convaincu que pour élever ses enfants. Le folklore enfantin que ses enfants auraient entendu pendant leur enfance était un excellent point de départ pour leur éducation musicale. Alors, il crée une série d'arrangements d'un bon goût extrême pour ses mélodies. Et il parvient à faire un peu comme Bartok est parvenu à faire dans le microcosmos, de transformer des œuvres à finalité pédagogique en très souvent dans de petits joyaux de vraie et très touchante musique.
D'ailleurs, c'est curieux parce que ce sont deux entreprises, celle de Bartok et de Villa-Lobos, qui sont exactement contemporaines.
Elles sont exactement contemporaines. Benjamin Souchoff dit justement que c'est entre 33 et 36 que Bartok, qui avait déjà commencé certaines pièces du microcosmos à la fin des années 20, mais il conçoit le microcosmos en tant que microcosmos. Et alors, c'est exactement la période de Villa-Lobos aussi, dans un autre coin de la Terre, entre 32 et 36.
Alors, j'ai été très intéressée dans le colloque par quelque chose que vous avez dit en introduction de votre communication. Vous avez commencé par parler de ce dont le Guia Pratico n'est pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Guia Pratico n'est pas ? Vous avez commencé votre intervention de cette manière-là. Et cela m'a intéressée, puisqu'au fond, c'est une manière peut-être un petit peu provocatrice de lancer la discussion. Mais est-ce que ce Guia Pratico peut être considéré comme un emblème du nationalisme musical brésilien? Et si oui, à quel titre?
Très bien. Alors, qu'est-ce que le Guia Pratico n'est pas? Il n'est pas, comme on l'a très souvent supposé, disons, une somme des expériences que Villa-Lobos aurait accumulées pendant sa jeunesse en voyageant par le Brésil, de notations musicales à caractère folklorique qu'il aurait fait dans tout le pays. Donc, très souvent, il y a l'idée que le Guia Pratico serait un peu une espèce de quintessence de toute cette expérience. Et il n'est donc pas cela. Ce qu'il est, c'est une formidable anthologie du folklore enfantin brésilien, mais présenté sous des arrangements qui vont, disons, du menuet à la samba, explicitement, pour illustrer pour l'élève des manières différentes de faire des arrangements des thèmes les plus divers. Quant au nationalisme, le nationalisme de Villa-Lobos, définitivement, ou de Mário de Andrade, n'était pas un nationalisme xénophobe, c'était justement créer, disons, à partir du matériau brésilien, un art qui mettrait en valeur justement cet énorme melting pot, cet énorme métissage, peut-être un métissage encore plus fort que tout autre dans le Nouveau Monde, où l'élément africain et l'élément indien, peut-être en moindre mesure, et l'élément européen certainement, se mélangent et s'interpénètrent. Et le Guia Pratico, bien que les thèmes eux-mêmes soient d'une origine indiscutablement européenne, puisque leur majeure partie est portugais et franco-portugais, mais la manière de les arranger, je crois, reflète bien cette ambiance musicale brésilienne où ces influences africaines sont particulièrement fortes.
Écoutez, Manuel, je vous remercie. C'est passionnant. On a aimé continuer à discuter avec vous de toutes ces questions. Peut-être que nous aurons l'occasion de vous retrouver bientôt, notamment pour parler des rapports établis entre musique et littérature à cette époque, ou même du rapport entre nationalisme musical et exotisme musical, puisque je sais que vous avez travaillé aussi sur les compositions de Darius Milhaud qu'il a effectuées à son retour du Brésil, et donc de ces échanges constants entre le Brésil et la France sur le plan musical au XXe siècle. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Anaïs.
C'était Manuel Correa do Lago qui s'exprimait sur les sources d'inspiration du Guia Pratico, une œuvre de Villa-Lobos. Le précédé en première partie, Daniel Piston, la correspondante à l'Académie des Beaux-Arts, évoquait le rapport entre académisme et liberté dans l'œuvre du compositeur. Pour en savoir plus sur Villa-Lobos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Observatoire musical français. Pour en savoir plus sur Villa-Lobos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Observatoire musical français www.omf.paris4.sorbonne.fr.